Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et oui, le moment est venu de retrouver Franck Ferrand et d'aller faire un tour en sa compagnie au cœur de l'histoire sur Europe 1. Aujourd'hui, l'histoire d'une époque oubliée. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Une époque oubliée, une époque troublée aussi, c'était celle du directoire que le romancier Philippe Séguy fait revivre avec brio dans son dernier roman. On y danse, on y complote, on y danse, on y agiote, on y joue aussi à des jeux très coquins. Je vous ai dit que sous le directoire, on dansait beaucoup.
Je crois, oui. Alors l'ouvrage en question s'intitule Stanislas ou un caprice de Joséphine et il est publié chez Flammarion.
Citoyenne Julia, ne changez rien, vous êtes merveilleuse, comme on disait à l'époque, et même incroyable.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Presque jamais du directoire et pourtant ce régime coincé entre la Convention et le Consulat, si vous préférez entre la Terreur et Bonaparte, c'est 4 années qui s'écoulent de Brumaire en 4 à Brumaire en 8, là aussi je devrais dire plutôt d'octobre 1795 à novembre 1799, ces 4 années sont tout simplement passionnantes. Ce qu'il y a d'incroyable avec le directoire, c'est qu'il nous offre un tableau de ce qu'est devenue la France après 5 ou 6 années de tourmente. Vous savez, c'est comme quand vous avez une énorme tempête et que d'un seul coup, après la tempête, il faut compter les dégâts, le paysage est dévasté et en même temps, cela fait de nouveaux espaces libérés pour replanter et pour restructurer. Un étranger qui aurait laissé la France sous Louis XVI et la retrouverait sous Barras et consorts aurait de quoi s'arracher les cheveux ou la perruque, puisque à l'époque, à l'étranger, on continuait à porter la perruque. Plus en France, hein, c'était passé de mode, on va y venir dans un instant. Entre l'ancienne France avec sa douceur de vivre et ses rigidités multiples complètement figées, et la nouvelle avec sa souplesse sociale active et en même temps ses duretés quotidiennes, les ressemblances sont si faibles qu'on croirait avoir affaire à des pays tout simplement différents. Cette expérience, du reste, c'est celle qu'avait faite le diplomate Sandoz Rollin, qui revient à Paris à la fin de l'automne 1795, après l'avoir quitté près de 10 ans. Et il est très surpris, ce Rollin, c'est très intéressant d'ailleurs de lire ça dans ses souvenirs de voyage, il est très surpris d'abord par la queue devant les boutiques. C'est ça qu'il frappe d'abord, la queue immense devant les boulangeries, devant les boucheries, l'augmentation partout des prix dans des proportions assez effroyables, l'indifférence, dit-il, du public à la politique et à tout ce qui concerne le débat public. C'est-à-dire qu'en fait, on se moque, on est devenu complètement hermétique à toutes les questions politiques. Et puis, bien sûr, et ça on va y venir, l'extravagance des modes, les robes très déshabillées des femmes, le goût tout nouveau des hommes pour la culture physique et la musculation, le nombre des théâtres, le nombre des bals. Paris n'est plus que bal public, théâtre facile, restaurant, glacier ou surtout jardins à spectacle. Parce que ça, c'est la grande nouveauté, bien entendu, du directoire. On danse et on s'amuse au Tivoli, notamment, où les Ruggieri ont l'habitude de tirer un feu d'artifice tous les soirs, et puis au jardin des Capucines, où le fameux Franconi, vous savez, le grand écuyer, est en train tout simplement de lancer le cirque. Les dames arborent les couleurs de Franconi. Alors c'est assez extraordinaire d'ailleurs, parce qu'évidemment, tout fait mode. La moindre nouveauté, le premier entichement, crée immédiatement des modes. On change de chapeau, on change de ruban, on modifie la longueur des robes. Alors il y a d'autres de ces jardins parisiens, bien entendu, chez Frascati. Il y a l'Élysée Boutin, bien entendu, il y a le hameau de Chantilly, les jardins Marbeuf, les fêtes d'Idali, où l'on met carrément en scène des tableaux vivants érotiques. Un soir, au Tivoli, on compte jusqu'à 12 000 entrées au milieu des fontaines jaillissantes et illuminées. Ce sont les jardins d'Armide transportés au sein de la ville, dit un dépliant de l'époque. Les conventionnels avaient sans doute voulu rétablir Athènes. En fait, ils ont créé Sparte. Eh bien, le directoire, lui, en voulant sans doute s'inspirer de Rome, et Dieu sait si les personnes du directoire à l'époque étaient particulièrement inspirées par ce qu'il avait pu se faire dans la Rome antique, en vérité, n'ont jamais ressuscité que Byzance.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Précisément aujourd'hui sur Europe 1, au cœur de l'histoire du directoire entre élégance et désastre. Franck, on en parle avec votre invité Philippe Séguy, bien connu des auditeurs d'Europe 1. Je rappelle qu'il est historien, journaliste et grand reporter à Point de vue.
Dans Stanislas ou un caprice de Joséphine que Philippe Séguy vient de faire paraître chez Flammarion, on peut lire la phrase suivante. La France comptait ses morts, les siens. Les Parisiens dressaient des listes. Dans les cafés, sur les places, à la bourse, au restaurant, on disait « J'y étais, j'ai vu, oh, j'ai failli. Le neuf Thermidor m'a sauvé, sinon j'étais déjà sur la liste. » Les vivants se vantaient d'avoir été inscrits sur la dernière liste. Tous avaient failli passer sous le grand rasoir national. Du moins, n'était-ce plus qu'une affaire d'après-midi, à peine de quelques heures. Il faisait assaut d'horreur, de détails, de situations décrites avec la minutie requise, versait les larmes, serrait les mâchoires, prétendait n'en plus pouvoir, au bord de la syncope, le doigt sur le flacon de sel, caché dans la plus petite poche du gilet bordé de petits gris. Parce qu'il faut tout de même, il faut ce qu'il faut. Bonjour Philippe Séguy.
Bonjour Franck Ferrand.
On voit dans votre ouvrage une sorte d'efflorescence de petits détails comme ça qui font tout le suc d'une époque. On peut dire que ce directoire, vous le connaissez, vous l'aimez particulièrement. C'est une époque où tout est à reconstruire. On a un peu l'impression du climat un peu flottant, c'est le moins qu'on puisse dire, que nous traversons nous en ce moment. Sauf que nous, c'est pour aller vers des lendemains sans doute de pire en pire, alors qu'à l'époque, on espérait que la société allait se redresser.
De l'intérêt d'être dans une période où tout est en effet possible, puisque tout n'existe plus. Moi, ce qui me fascine complètement dans cette période, extrêmement brève, vous avez rappelé...
4 ans.
C'est 4 ans, absolument, vous avez rappelé les dates. C'est que ce sont des gens qui ont failli mourir. Tout simplement. C'est-à-dire que c'est Thermidor, le neuf Thermidor qui ouvre les prisons.
Alors ce qu'on appelle le neuf Thermidor,
c'est la chute de Robespierre.
C'est la chute de Robespierre. Donc on sait que Robespierre, ses partisans, Saint-Just et les autres, ont été mis en minorité à la Convention, donc l'Assemblée de l'époque. Ils ont été... la chute a été brutale. Ils se sont réfugiés à la Maison Commune, à l'hôtel de ville de Paris, qui est le siège de la Commune de Paris, la Commune insurrectionnelle. Mais en fait, les armées de la Convention seront les plus fortes. Finalement, Robespierre est arrêté avec les siens, tout le monde est guillotiné, c'est la fin de la terreur. Et alors évidemment, on vivait dans un climat tellement dur et depuis si longtemps, ça faisait des mois que ça durait cette épouvantable terreur, que d'un seul coup on a l'impression que le soleil revient derrière le nuage et tout est possible.
Et que tout est possible. Et les gens qui ont failli justement passer, comme je dis dans mon livre, sous le grand rasoir national, sortent de prison. Alors ils sortent de prison sans forcément savoir ce qui les attend, évidemment, mais ils sont vivants. Et cette formidable explosion va les faire se précipiter dans les plaisirs de la vie. C'est une période qui me fascine parce que c'est certainement, il faut bien le dire, une des périodes les plus libertines de l'histoire et les plus certainement une des plus fascinantes périodes dans cet état de liberté recouvrée.
Alors,
justement.
Votre personnage, Stanislas, qui est un personnage vraiment très attachant, ça fait partie de ces
Merci.
Romans qu'on ne peut... Non mais vraiment, on lit ça, on est avec lui. Il traverse les différentes périodes de la Révolution, il ira même beaucoup plus tard, tout à fait jusqu'à l'Empire, mais pas loin. J'espère qu'il y aura un autre tome.
J'espère beaucoup.
En tout cas, pour la partie directoire, ça se passe à Paris. Simplement, il faut bien dire que dans toutes les grandes villes du royaume, on a le même souffle de nouveauté, de libération. Même chose à Lyon.
Et je prends l'exemple de Lyon, bien évidemment. Lyon qui a connu la terreur. Lyon qui s'est sorti de cette période révolutionnaire en laissant tellement de morts, justement. C'est la même chose à Nantes, par exemple. Lyon explose de vie, explose de joie. Et on a le visage de cette fameuse Madame Tallien, puisque Tallien était un des envoyés de la Convention
la nationale. La Thérésa Cabarrus, qui elle vivait à Bordeaux.
Absolument.
Qui va séduire le conventionnel représentant de l'Assemblée donc à Bordeaux.
Et sauver des vies.
Et sauver tout le monde.
Et sauver des vies. Et devenir ce que le directoire, ce que les Parisiens, puisqu'évidemment le couple remonte à Paris, elle sera emprisonnée au Carme et elle aura comme voisine de cellule une certaine Rose de Beauharnais, puisque Joséphine ne s'appelle encore à cette époque que Rose. Et c'est grâce justement à cette fameuse Madame Tallien et à son grand amour Jean Tallien, qu'il y aura le neuf Thermidor. Elle lui fera passer ce billet fameux « Je meurs d'appartenir à un lâche », ce qui pourrait être traduit par « Dépêche-toi, il y a urgence », c'est la guillotine qui nous attend toutes.
Et, oui,
et Jean Tallien va fomenter ce fameux complot de Thermidor dont nous parlions tout à l'heure.
Donc il va faire chuter Robespierre.
Voilà.
Son épouse, Madame Tallien, va devenir Notre-Dame de Thermidor, comme on l'appelle. Elle est celle qui a sauvé le pays, en tout cas tous ceux qui étaient au bord de la guillotine, quand même, il faut le dire. Alors évidemment, il y a un nom qui s'impose.
suppose, c'est celui de Barras qui dirige le directoire, si je puis dire. Peut-être pas officiellement, mais en tout cas, c'est lui qui est l'homme fort du régime, ou le moins faible en tout cas.
Barras est le roi de Paris. Barras, personnage fascinant, appartenant à l'ancienne noblesse. Il est vicomte. Très bonne famille provençale, Barras qui va très vite faire partie des deux directoires, parce qu'il y aura deux gouvernements dans ces fameuses quatre années.
Oui, il faut préciser ça une fois pour toutes, on n'y reviendra peut-être pas, mais on dit le directoire, en fait il y a deux gouvernements.
Voilà, il y a deux gouvernements, le second qui commence en septembre 97 ira jusqu'en novembre 99 avec le fameux coup d'État, on y reviendra certainement, du 18 Brumaire qui va porter Bonaparte à ce moment-là au pouvoir et ça sera le consulat.
Alors c'est curieux parce que ça ne dure que 4 ans, évidemment, tout ça est assez fugace, mais ces 4 années sont le creuset, elles sont un peu le laboratoire de tout ce qui va se faire ensuite pendant au moins un siècle, je dirais quasiment jusqu'à la guerre
bien
de 14.
Sûr, pour bien sûr,
tout dire.
Bien sûr.
Tout naît à ce moment-là, tout se crée, on a l'impression que les cartes sont redistribuées, vous savez, on a pris les cartes dans les mains de tout le monde, ça c'est la révolution, on a tout collé par terre, puis on les a ramassées et on les redistribue, et avec celles qu'il reçoit, eh bien chacun va devoir faire au mieux, s'en tirer et bien entendu vivre, parce que c'est peut-être la devise des gens du directoire, on vit.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et jusqu'à 14h sur Europe 1, je vous rappelle que nous nous intéressons au directoire entre élégance et désastre et nous en parlons cet après-midi sur Europe 1 avec Philippe Séguy qui est docteur en histoire, journaliste, grand reporter à Point de vue, auteur du roman Stanislas ou un caprice de Joséphine chez Flammarion et puis il est également l'auteur de Et embrasser la liberté sur la bouche, toujours chez Flammarion qui est sorti le 9 février dernier, Franck.
Barras, voilà un nom que nous avons cité. Alors c'est vrai, on me dit qu'il faudrait peut-être le préciser un peu, ce personnage. Dire à quoi il ressemble, qui est-il ?
Alors, donc c'est un personnage qui est typiquement d'Ancien Régime, mais c'est un personnage qui sent finalement que la société française change. Donc c'est un militaire, c'est quelqu'un qu'on va retrouver dans les Indes, avec le grade de capitaine, c'est quelqu'un qui ira jusqu'à être général, et puis c'est quelqu'un surtout qui revient très vite à Paris, qui comprend, encore une fois, que l'Ancien Régime est en train de disparaître et qui va devenir un des éminents, je dirais, députés de la Convention et qui va évidemment faire partie de ce complot.
Du complot de Tallien et des autres
pour faire tomber Robespierre. À ce moment-là, Tallien comprend que ses collègues au directoire sont des personnages relativement falots par rapport à sa personnalité assez redoutable. C'est un homme qui aime le pouvoir, c'est un homme qui aime les femmes, c'est un homme qui aime les jolis garçons, c'est un homme qui aime passionnément le luxe. Et une des premières choses qu'il comprend lorsqu'ils arrivent dans ce fameux palais du Luxembourg où absolument rien n'a été prévu pour recevoir les membres du directoire qui quand même sont le nouveau gouvernement de la France, c'est de s'empresser de faire venir meubles, tapisseries, tableaux, consoles des anciens palais royaux et du garde-meuble pour très vite remeubler tout cela.
Et on recommence.
Et l'argent véritablement change de main. C'est une redistribution des cartes extraordinaire.
Alors on va venir dans un instant, bien entendu, à la gabegie générale, parce qu'il y a autour de Barras un goût de luxe, de plaisir, vous l'avez dit. Il aime autant les femmes que les hommes. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens bisexuels dans votre roman. Est-ce que c'est l'époque qui veut ça ? Il y avait une sorte de...
C'est l'époque, dans la mesure, encore une fois, il faut, quand on veut recouvrer sa fortune, ses places, les honneurs, tout est possible, mais à condition qu'on le veuille. Et mon personnage, justement, dans ce roman de Stanislas, est un garçon qui, lui-même, a failli mourir, puisqu'il a été emprisonné au Carme. Et le désir de ce garçon, avant tout, c'est justement de recouvrer un minimum de pouvoir, un minimum d'argent, et, si vous me passez la formule, d'être de ce fameux, de cette nouvelle France, en être. Et pour en être, il faut justement quelques souplesses dorsales, comme disait notre merveilleux Jean Rostand, et d'avoir la possibilité de rencontrer des gens qui, encore une fois, après cette peur de la mort, eh bien, aiment aussi bien des hommes que des femmes, le luxe, la nourriture, la gastronomie, tout le monde.
La souplesse dorsale dont parlait Edmond Rostand était celle des courbettes, celle dont vous parlez, vous, est d'une autre nature.
Voilà.
Alors, je disais qu'on va parler, bien sûr, de tous ces plaisirs du directoire, c'est même l'essentiel de ce que je voudrais que nous abordions aujourd'hui. Mais avant ça, il faut dire à quel point la France est dans une situation financière atroce. C'est un des très rares moments dans toute l'histoire de France où l'État a fait carrément banqueroute, il faut
c'est
quand
une,
même dire.
C'est fait une banqueroute financière. L'assignat est totalement dévalué.
Alors, il faut dire ce que c'est que l'assignat.
Alors,
c'est un papier monnaie.
C'est un papier monnaie. L'inflation a atteint des summums. Il faut des brouettés d'assignats pour acheter une botte de poireaux. Et c'est la misère absolue dans toutes les grandes villes de France. Le commerce est réduit à sa portion congrue. L'industrie est moins que balbutiante. Les échanges avec les autres pays ont été brisés, évidemment, par la guerre et les coalitions des princes. En d'autres termes, le français meurt de faim. Donc il s'agit progressivement, et le directoire essaiera, de remonter la pente. Mais celui qui le fera définitivement, et de quelle manière, ce sera évidemment Bonaparte.
Et alors, c'est un constat d'échec. Comme on dit toujours, va siffler la fin de la récréation.
Voilà.
Mais là, pour l'instant, on est en plein dans cette récréation. Donc on danse à Paris. Il y a ces balles dont je parlais, ces jardins d'attractions. Hein, on pourrait
ces maisons closes.
Les maisons closes partout.
Les maisons de jeu, les tripots, dont on sait très bien d'ailleurs que Barras les fréquente. Et mon personnage de Stanislas est un des espions de Barras.
Avec des snobs qu'on appelle les incroyables et
alors,
les merveilleuses.
Les incroyables et les merveilleuses, pourquoi? Parce qu'il est de tradition à l'époque de tout trouver incroyable,
incroyable,
et je dirais même incroyable, oui. Parce qu'on parle avec l'accent créole. En fait, on ne prononce,
on prononce plus les R.
Voilà. Donc on donne à tout bout de sens sa petite parole d'honneur panachée, et on dit c'est incroyable, c'est merveilleux. Et il s'agit donc de porter ces modes extravagantes, il s'agit de paraître plus vieux que son âge, il s'agit de paraître myope, il s'agit de paraître sourd, et on espère justement surtout de se différencier définitivement et totalement du prochain. Et le prochain, c'est qui? C'est l'ancien révolutionnaire, c'est l'homme qui portait la carmagnole, c'est l'homme qui portait le bonnet phrygien, c'est l'homme qui portait le pantalon et les sabots.
C'est-à-dire qu'en fait, on va quand même vers une forme de très grand raffinement.
Et d'immense sophistication.
Exactement, ouais. Notamment à table.
Absolument.
Il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, seuls avaient droit à la gastronomie, les princes ou les riches financiers, les gens qui pouvaient avoir des cuisiniers chez eux.
Voilà.
D'un seul coup, tous ces gens sont partis en émigration, les cuisiniers sont devenus des restaurateurs et ouais. On peut, pour quelques sols,
exactement.
Aller dîner comme dînait un prince.
Et ça frappe terriblement justement un homme.
C'est le début des restaurants. Hein.
Et ça frappe terriblement justement un voyageur. Qui s'appelle Swinburne et qui vient de son Angleterre natale et qui est très étonné justement de voir la façon dont on mange remarquablement bien et pour pas cher du tout. Et dans ces restaurants justement, on parle, on raconte les modes, on les lance et plus on est riche et plus on peut aller justement, on a délaissé les frères provençaux qui étaient les restaurants des révolutionnaires où allaient couramment Saint-Just et Robespierre et on va justement dans des restaurants ultra chics où on va prendre par exemple à Tivoli, dont on parlait tout à l'heure, jusqu'à 137...
qui sont pas loin de la butte Montmartre
exactement.
Aujourd'hui.
Exactement, et on pouvait consommer et déguster jusqu'à 137 variétés de glaces.
Voilà.
Un personnage comme Cambacérès fait venir son rhum et ses ananas des îles. Le raffinement de la table, Carême sera l'héritier en quelque sorte de
Carême,
cette période.
Le grand cuisinier
le grand
de
Talleyrand sous l'Empire.
Et donc, il y a cette volonté de s'amuser, cette volonté d'épater le voisin, de se créer un statut, bien entendu. Et tout ça passe d'abord, avant tout, par la mode.
L'apparence.
Quelles étaient les modes du directoire? C'est ce que je vais essayer de vous raconter maintenant.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Effectivement, 13h30 tout juste sur Europe 1. Voici le récit de Franck consacré aujourd'hui aux tendances, oui, à la mode, sous le directoire.
Philippe Séguy nous parlait à l'instant de cette mode extraordinaire. Il nous parlait de Madame Tallien. Eh bien, c'est Madame Tallien qui va lancer ce qu'on appelle l'anticomanie, c'est-à-dire cette façon qu'ont les dames, surtout les dames, de s'habiller à l'antique, ce qui, disons-le clairement, est un prétexte à se déshabiller. Alors, vous avez des robes à la Diane, à la Flore, à la Minerve. Les robes à la Minerve sont très appréciées de la gent masculine parce qu'elles sont particulièrement courtes, très échancrées et tellement transparentes qu'évidemment, on ne peut rien porter en dessous, vous imaginez. Autant dire que les grâces du directoire se promènent à peu près nues dans la rue. Au moment notamment de l'ambassade du Grand Turc, qui va faire un des grands événements de cette époque, on va lancer aussi la mode à la turque, bien entendu, avec des culottes bouffantes. Les femmes se promènent avec ces énormes culottes bouffantes. Elles sont quasiment pieds nus, elles ont des toutes petites babouches et des vestes totalement courtes, ouvertes sur la poitrine, qui elle-même est nue. Vous imaginez un peu. peu ce que ça peut donner. On imagine aussi pourquoi les touristes anglais, si tant est qu'on puisse déjà les appeler touristes, pourquoi les visiteurs anglais sont si nombreux à l'époque, parce qu'il y a du spectacle à Paris, en quelque sorte. Charles de Constant dira « On voit des femmes nues presque jusqu'à la ceinture et à la lettre sans chemise comme sans vergogne. D'autres en habits de hussard, de turc, en grec, en flore, en hébé, en paysanne. C'est une brillante mascarade. C'est cette société qui a donné le bal dit des victoires, où les fils et filles de guillotinés dansent avec les fils et filles de bourreaux. » Là encore, hein, c'est assez extraordinaire. Alors pour distinguer ceux qui descendaient des guillotinés, ils s'étaient mis autour du cou un ruban rouge. Vous imaginez le degré, comment pourrait-on dire, d'humour, certes, mais aussi de perversité de cette société et de ses amusements. Si les femmes se déshabillent, les hommes ne sont pas en reste et les nouvelles élites qui ne lisent pas et qui méprisent totalement l'esprit. Parce que ça, c'est intéressant. On est sous le directoire dans un moment où les livres sont mal perçus. Il ne faut pas aller dans une bibliothèque, vous passez vraiment pour une personne grossière. Tout ça est terminé. En revanche, alors, grand intérêt pour le corps, au point qu'on puisse parler quasiment de la naissance du sport moderne. La palestre, la lutte, la course à pied, toutes sortes de jeux dits à l'antique envahissent le stade. C'est ce que les Goncourt appelleront le culte du directoire pour le muscle. La mode sous le directoire devient une chose vraiment extravagante et comme l'a dit Philippe tout à l'heure, il s'agit bien sûr de réagir contre l'austérité de la Révolution, contre l'ancienne sévérité des mœurs révolutionnaires. Alors, encore une fois, il faudrait nuancer parce qu'évidemment un Robespierre, par exemple, faisait assaut de grande élégance sous la Révolution, mais il était un peu une exception. Coiffure, tunique, chaussures, cachemire, bijoux, tout ça est littéralement étourdissant. L'originalité prime sur le goût, je pense que maintenant vous l'aurez compris, et le besoin de paraître est évidemment sur le bon ton. C'est humain. Il y a une espèce d'hystérie. Tout est incroyable, merveilleux, divin, sublime. C'est de cette époque, hein, c'est du directoire que nous viennent ces exclamations. Ces dames se déguisent des pieds à la tête, des perruques. Alors, je disais qu'on ne portait plus de perruques. Les hommes ne portent plus de perruques, mais les femmes se mettent à porter des perruques blondes, des perruques brunes, même des perruques bleues ou violettes. Les souliers sont extraordinairement hauts, les semelles deviennent incroyables comme de véritables cothurnes en peau de chèvre rose doublée de soie vert pomme, nous dit un des chroniqueurs de l'époque. On peut dire que si les belles dames de Versailles en escarpins revenaient, elles se pâmeraient probablement. Et là encore, chez les hommes, des cols démesurés et rigides qui leur donnent l'air d'être un peu infirmes, des cravates gigantesques, des habits cintrés à l'excès, des culottes si moulantes qu'il est impossible d'y glisser, ne serait-ce qu'un mouchoir, dit-on. Un autre aspect du directoire et qui saute aux yeux des témoins, c'est, disons-le, le côté quand même un peu nouveau riche de tout ça. Quand je dis un peu, même carrément nouveau riche. Les parvenus ont remplacé les anciennes élites mobilières. Le type même du parvenu directoire, on le trouve par exemple chez un Letran, qui était vigneron au départ à Corbigny. Il faut savoir qu'à une époque, il montait quand même à Paris avec sa blouse et ses sabots. Et puis dès 1795, il a fait de tellement bonnes affaires, un peu nébuleuse, disons-le, qu'il est en mesure d'acheter l'hôtel de Salm. Vous savez, ce sublime hôtel de Salm, un des hauts lieux de l'art de vivre aristocratique dans le Paris d'avant 1789. Et puis, il ira plus loin, il achètera le domaine de Bagatelle qui appartenait au beau-frère de Marie-Antoinette, au comte d'Artois. Et il s'y rend d'ailleurs dans un attelage à 12 chevaux qu'il a acheté au prince de Crouy. Donc, on voit que les fortunes ont changé de main, tout simplement. L'élite est nouvelle. Et pour faire bonne mesure, il ira, lui, jusqu'à prendre comme maîtresse, Mademoiselle Lange, cette fameuse comédienne dont nous parlions tout à l'heure et qui était passée du lit de Barras à celui de Letran. Louis Madelin dit « Si les nobles dames de 1789 revenaient, elles trouveraient dans leur loge à la Comédie, couvertes de diamants et drapées dans des cachemires de 100 louis, leurs anciennes filles de cuisine au bras de leurs anciens porteurs d'eau habillés à la Barras. » Et tout ça, dites-vous bien, tout ça en très peu de temps, en 6 années à peine. Depuis 1789, pour peu qu'on soit un peu malin, il a été facile de s'enrichir et de se parer des dépouilles de l'ancienne classe privilégiée. On peut dire que la richesse, le patrimoine, du jour au lendemain, ont tout simplement changé de main. Alors évidemment, il y a de bons filons pour faire fortune. Hein. Les spéculateurs savent exactement où se situer et comment jouer. La corruption à cette époque est absolument sans limite. Et puisque nous parlions du personnage de Barras, vous savez qu'il est devenu une sorte d'incarnation dans l'histoire de France du corrompu. Mais il n'est pas le seul. Il est un peu, si vous me passez cette trivialité, l'arbre qui cache la forêt. Quand on fait le bilan bilan des années révolutionnaires d'un point de vue patrimonial. Ça, c'est assez important. On est littéralement sidéré de constater que ce qui animait au fond cette bourgeoisie républicaine dans une large part, c'était de s'emparer des biens et des trésors plus ou moins réservés jusque-là à la noblesse et au clergé. On peut dire que d'un seul coup, c'est toute une nouvelle classe de propriétaires qui s'est abattue sur les hôtels particuliers, les châteaux, les abbayes, sur les églises même et sur les monastères. Et je ne parle pas des tentures, des tapis, des meubles, des toiles de maître, des objets d'art, des instruments rares, de la vaisselle fine, des livres précieux. Tout ça existait dans des proportions énormes avant la Révolution. Tout ça a été confisqué, tout ça a été racheté. C'est toute l'histoire des biens nationaux, vendus, parfois revendus 4 fois en 15 jours. Peu importe, vous trouvez chez une femme qui autrefois était une simple ménagère, une bourgeoise de quartier, vous pouvez trouver des services de vaisselle qui autrefois étaient ceux de princes, de princesses. On est en plein rêve pour une certaine catégorie de la population. Et pour tous ceux qui ne meurent pas de faim, on peut dire que tout simplement, sous le directoire, on s'amuse.
Vous êtes bien à l'écoute d'Europe 1, la symphonie numéro 1 de François-Joseph Gossec. À tout de suite pour la suite d'Au cœur de l'histoire. On s'intéresse au directoire aujourd'hui.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec Franck Ferrand et son invité, l'historien et journaliste, grand reporter à Point de vue, Philippe Séguy, nous vous proposons aujourd'hui une plongée au cœur du directoire, une période pendant laquelle on s'amuse, entre élégance, mais désastre aussi, Franck Ferrand.
On s'amuse donc sous ce directoire, Philippe Séguy, vous le montrez très bien. Vous montrez aussi que si l'on s'amuse, on s'inquiète aussi beaucoup. Et chacun est en train de jouer des coudes pour essayer de faire sa petite place au soleil.
C'est très difficile parce que, comme vous venez justement de le préciser, la galette est énorme. Mais si elle est énorme, elle suscite des convoitises qui sont tout aussi gigantesques. Donc il s'agit de jouer des coudes pour se hisser au pouvoir. Et ce pouvoir est infiniment flottant. Rien ne bouge vite. Les choses sont en train, au contraire, on a l'impression que d'une chape de plomb, encore une fois vertigineuse, qui pèse sur cette pauvre France. Donc comment faire en sorte de faire sa cour alors qu'il n'y a plus de cour? Eh bien si, il y en a une différente. Encore une fois, si l'argent a changé de main, le pouvoir évidemment continue de changer de main. L'homme fort du régime s'ébarrasse. Il faut donc faire sa cour au Luxembourg. Et ce qui est extraordinaire...
Nous allons faire, on pense évidemment à cette scène de Talleyrand rentré d'exil et qui, dans une voiture qu'il conduit justement au Luxembourg, dit « Nous allons faire une fortune immense », qui était une des chansons d'opérette à la mode à l'époque.
Nous allons faire une fortune immense. Il faut faire un pouvoir tout aussi immense. Allons au Luxembourg et assistons en quelque sorte au petit lever de Barras, au grand coucher de Barras, au dîner, au déjeuner de Barras, aux soirées fabuleuses que le roi de Paris donne et essayons...
Le roi de Paris, c'est Barras, c'est comme
bien
ça qu'on l'appelle.
Sûr, le roi de Paris, c'est Barras et essayons justement de se faire mousser, si vous me passez la formule, tout en prenant force vin de Champagne, parce qu'on a aussi vidé les caves de Versailles et on boit des toquets extraordinaires, des vins de Champagne fabuleux, des vins de Bourgogne exceptionnels et entre deux gorgées de ces vins divins, pour reprendre un mot cher à la période, on se place et on place ses amis et on spécule. Le mot de l'époque, c'est spéculation. Et on va spéculer absolument sur tout, jusqu'aux fournitures des armées.
Et puis, on ne peut quand même pas passer ses soirées que dans les jardins de plaisir, donc on va beaucoup au théâtre. On ne lit plus, mais alors qu'est-ce qu'on va au théâtre? On n'a jamais vu autant de théâtre à Paris.
On va au théâtre, et ce qui est assez fascinant, c'est que lorsque le rideau est en train de se lever, le théâtre est aussi une scène politique où les monarchistes qui commencent justement dans cette période, à relever la tête, incendie, insulte les anciens révolutionnaires et le malheureux comédien, star entre les stars de l'époque, Talma pour ne pas le nommer, se fait littéralement insulter sur scène et les larmes aux yeux est obligé de dire « mais non, je suis un bon républicain, je n'ai jamais été autre chose qu'un homme épris de liberté, je n'ai rien à voir avec l'affreux Robespierre ». On est au théâtre comme un poisson dans l'eau à l'époque.
Mais Talma n'a pas encore vécu ses grandes heures parce qu'effectivement on boude les grands comédiens, on veut plus de tragédie, on n'applaudit même pas la comédie de mœurs, on ne la comprend pas, dit un chroniqueur de l'époque, ce qui est épouvantable, on est quand même dans une décadence totale. Ouais. Ce qu'on veut, c'est du mélodrame, en fait, hein, de l'effet visuel, des trucs scéniques, des airs faciles, parce qu'il faut que toutes les pièces soient chantées avec des voix bien suaves à la Garatte, des ballets légers interprétés par des danseuses virtuoses et très peu vêtues à la Vestris.
On danse aussi sur scène de théâtre et on danse des espèces de danses bizarroïdes qui sont généralement inspirées de la Grèce ou croit-on de ce qu'on dansait en Grèce. Donc des 12 et 15 jeunes filles et jeunes garçons qui scandent sur la scène de l'Odéon des étranges pas de deux qui ont l'air de laisser de marbre d'ailleurs parce que ça se fait siffler assez souvent et on rechante à l'intérieur du public. Les musiciens se battent avec les gens qui sont dans la salle. Enfin, c'est une période complètement hallucinante, surréaliste, où les rapports humains explosent les uns après les autres.
Le grand succès de l'époque, ça c'est intéressant parce que c'est politique, ça s'appelle Les artistes modernes ou l'intérieur des comités révolutionnaires, ça c'est assez extraordinaire. C'est une satire, mais alors une satire au vitriol d'un certain Ducantel contre les comités du temps de la terreur. Et alors, évidemment, il était très bien, l'auteur était très bien informé, ce qui fait qu'il décrit le fonctionnement de ce comité, le comité de sûreté générale et le comité de salut public, avec beaucoup de précision. Et la salle interrompt les représentations par de longues salves d'applaudissements. Et on dit qu'à la fin, les comédiens sont applaudis pendant une demi-heure debout. Donc il y a quand même une espèce de très grande acrimonie contre la Révolution. Hein.
Ça me rappelle cette anecdote avec Mademoiselle La Tour du Pin dans un autre spectacle. Une jeune fille blonde se met à hurler en plein milieu du spectacle. Alors on accourt, mon Dieu, qu'est-elle ? Et elle se met à crier « Ils ont tué mon père et ma mère !» Donc on revit en quelque sorte ces spectacles parce que justement, quelques années, que dis-je, quelques mois, quelques jours auparavant, on était dans cette prison et on attendait la mort comme les acteurs qu'on voit sur la scène.
Alors je disais tout à l'heure, à propos en citant Rollin, que le public ne s'intéressait plus à la politique. Oui et non, ça dépend de quel public on parle. C'est-à-dire que l'immense masse de la population qui a beaucoup de mal à se nourrir à cette époque, non seulement ne veut plus entendre parler de politique, mais met en gros tout le monde dans le même sac. Mais il y a bien entendu tous les anciens privilégiés qui essaient de retrouver une situation et qui, eux, sont des royalistes invétérés.
Le Muscadin dont on parle, l'incroyable et la merveilleuse, sont d'essence monarchistes. En fait, leur dieu, c'est Fréron, c'est ce député assez, d'ailleurs, de basse extracte, enfin un peu bizarroïde, personnage de mauvaise réputation, mais il faut être monarchiste. Vous savez, quand on parle justement de spectacle, on larmoie un petit peu, eh bien, on a ces charades, l'anagramme de Révolution française, la France veut un roi. Donc on se fait des clins d'œil comme ça dans le jardin du Tivoli et au fur et à mesure où on s'aperçoit que ce régime est incapable finalement d'un véritable ordre politique, économique et financier, les monarchistes relèvent la tête. Mais en même temps, les gens de la gauche relèvent aussi la tête et les révolutionnaires se disent à notre tour, nous pouvons jouer une carte, la carte de la révolution, cette révolution pour laquelle on s'est battu, cette révolution que les directeurs sont en train d'enterrer. Donc il y a encore une fois un clivage entre les gens très riches et les gens très pauvres, clivage entre les gens de droite et les gens de gauche, les gens qui sont pour la monarchie, de ceux qui sont encore pour la révolution.
Pour une vraie république, parce que la république en cours, évidemment, n'est pas brillante. Et tout ça, bien sûr, sur fond de corruption, d'argent et de danse. La danse est aujourd'hui ce que le Parisien aime, écrit Mercier, ce qu'il chérit ou plutôt ce qu'il idolâtre, et du petit au grand, c'est-à-dire du riche au pauvre, tout danse, c'est une fureur. On danse partout. On dit qu'il y a 640 bals publics à Paris. Mais pourquoi tout le monde se trémousse-t-il comme ça ?
C'est encore ce goût de la vie. C'est encore le fait de se sentir vivant. C'est le goût de séduire. Et quand vous parlez justement de ce corps qu'il faut former, et qu'il faut muscler, eh bien la danse justement, parce qu'on donne aussi des cours de danse. Et les professeurs de danse, les professeurs de chant, on la cote. Et même les professeurs de calligraphie. C'est fou comme cette période est celle finalement de tous les esthétistes.
Et de toutes les nouveautés, y compris de la valse qui arrive pendant. Parce qu'on pense toujours aux valses viennoises de la fin du 19e siècle, mais en fait, la valse, elle naît là, sous le directoire. C'est la danse lascive qui va libérer les mœurs. Il y a aussi ce fameux quadrille des nègres qui a été très, très commenté ces dernières années avec tous ces danseurs et danseuses noires qui interprètent à peu près nus des danses frénétiques dans l'ancien hôtel de Longueville. Alors, ça fait un succès phénoménal. Et il y a peut-être plus étonnant encore, c'est le bal des zéphyrs qui a été installé dans le cimetière Saint-Sulpice. Alors on a mis là une grande enseigne, on a repeint en rouge balle des Zéphyrs, mais dessous on lit encore les lettres Resquiescat in pace.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Sur Europe 1. Oui, oui, il s'agit bien de la marche de Gossec. Pour accompagner votre invité, Franck, il s'agit de l'historien et journaliste Philippe Séguy.
Stanislas ou un caprice de Joséphine, c'est le roman que Philippe Séguy nous propose pour découvrir non seulement cette période du Directoire dont nous venons de parler depuis une heure, mais d'une façon générale toute cette période de transition, cette période de la Révolution française et même des tout débuts du Consulat. Votre Stanislas Reverdin, qui est-il, Philippe Séguy? Vous l'avez inventé de toutes pièces.
Alors évidemment, c'est un personnage fictif. Stanislas, c'est le fils d'un marquis, donc d'un homme qui vient de l'Ancien Régime et d'une paysanne. Et cette paysanne est une femme qui se cultive, qui est éprise des idées nouvelles et qui pousse son fils en quelque sorte, qu'elle sent ambitieux, à monter à Paris. C'est un garçon qui est né près de Vimoutiers dans l'Orne, qui s'étiole gentiment dans sa petite province. Lutiné du jupon, ça va 5 minutes, et il se dit, pourquoi pas justement monter dans la capitale, j'ai un rôle à jouer peut-être.
Mais il arrive à un moment qui est compliqué.
Arrive à un moment qui est un petit peu compliqué, à tel point compliqué, le pauvre chaton va se faire enfermer au Carme, et c'est à la fois malchance
et chance. Pas tout de suite, parce qu'il lui arrive toutes sortes de choses.
Tout à fait.
C'est un roman picaresque. Vous avez, ça c'est très amusant, parce que fort de toute la connaissance intime que vous avez de l'époque, vous avez imaginé toutes sortes de rebonds. Il traverse les pires dangers.
Oui, parce
on a l'impression qu'il les traverse indemne. Hein, d'ailleurs, c'est un peu comme ces héros de bande dessinée qui ont la faculté de tout accomplir.
C'est un héros que j'espère récurrent. Ouais. Donc je ne veux pas qu'on les gratigne. Et puis il est trop beau pour. Ça serait dommage. Donc c'est un garçon en effet qui va rencontrer différentes personnalités, dont le fameux Barras, dont la fameuse Joséphine, et bien évidemment bientôt Bonaparte. C'est un homme qui rencontre aussi un irrésistible voyou à la prison des Carmes.
Oui, parce qu'on dit
Valentin.
On dit un personnage, mais en fait le roman est traversé par, on peut dire, un duo de personnages, voilà. Par Stanislas et Valentin.
Et Valentin qui est un ravissant voyou, qui est un beau mec au couteau, si vous me passez cette formule, et qui justement va aider Stanislas à vivre, parce qu'il s'agit de vivre dans ce Paris où tout est possible. Donc il va, sa bonne étoile, c'est Joséphine, puisque je lui fais raconter que c'est une des personnes qui sauve la vie de la future impératrice dans cette fameuse prison des Carmes.
C'est sur un plan historique très intéressant parce que ça nous donne une idée de la vie quotidienne dans ces prisons de la Révolution. C'est assez étrange parce que ces aristocrates qui ne redoutent qu'une chose, c'est l'arrivée chaque jour de l'aide du bourreau qui vient lire la liste de ceux qui vont monter dans la charrette pour aller à l'échafaud, hein, bien entendu. Mais entre deux lectures de liste, ils n'ont pas grand-chose à faire. Ils continuent à mener une vie relativement élégante. Ce ne sont pas des cachots dans lesquels on est verrouillé.
Non,
hein.
Non.
Ce sont des prisons assez, si j'ose dire, assez libres.
Oui, parce qu'en fait, pour revenir justement à notre Joséphine, elle est enfermée dans cette fameuse prison des Carmes, qui est un ancien couvent. Donc ça tient plutôt lieu du grand réfectoire,
voilà.
Du grand dortoir. Et elle aura comme voisine de lit la ravissante Delphine de Custine, qui n'est autre que la maîtresse de son mari, le bel Alexandre. Et au lieu de se détester, ces deux femmes tombent dans les bras l'une de l'autre. Et en fait, c'est la reine Hortense qui raconte dans ses mémoires que, à l'instant où sa mère, la future impératrice Joséphine, entend son nom prononcé, elle s'évanouit. Elle tombe, comme on disait à l'époque, de saisissement.
Il faut expliquer que la reine Hortense, qui est la mère de Napoléon III, se trouvait être la fille, un des deux enfants de Joséphine de Beauharnais, avec son premier mari, le vicomte Alexandre de Beauharnais. Donc cette reine Hortense, plus tard, elle raconte ce que sa mère lui a dit.
Exactement. Donc c'est une première source, une source évidente, et elle le dit très précisément dans ses mémoires. Donc Rose, la future Joséphine, tombe de saisissement. Des amis à elle se précipitent, font écran de leur corps, et évidemment Hortense ne donne pas les noms de ces gens. Donc ça
on sait pas qui
c'était. On ne sait pas qui c'est. Donc ça m'a été évidemment facile, et l'histoire en moi est née il y a bien longtemps, d'inventer ce personnage de Stanislas. C'est le premier et fort beau visage que Rose de Beauharnais voit quand elle recouvre en quelque sorte la vie, si j'ose dire, dans cette prison, et elle voit ce beau garçon blond qui lui dit « Madame, vous êtes sauvée ».
Voilà. Et cette rose de Beauharnais, pour ceux qui nous rejoindraient seulement, je précise que c'est bien la future impératrice Joséphine.
Absolument.
Mais qu'à l'époque, tout le monde appelle
tout
Rose.
Tout le monde l'appelle Rose. Son prénom, en quelque sorte, c'est Rose Joseph, tachée de la pagerie. Et Marie-Joseph va devenir Joséphine. Et qui va la rebaptiser Joséphine? Évidemment, Bonaparte.
Eh oui. Alors, Bonaparte est un personnage un peu en creux. Il est un peu l'arlésienne de votre roman. J'imagine que s'il y a une suite aux aventures de Stanislas Reverdin, on le verra apparaître bien davantage, même si, et c'est assez surprenant, même si la toute... Alors, je ne sais pas si on a le droit de raconter ça, mais après tout, comme c'est dans les premières pages, si c'était la fin du roman, je m'abstiendrais peut-être, mais là, c'est le prologue du livre, hein, c'est vraiment avant d'entrer dans l'histoire même, on est en présence de Stanislas et du général Bonaparte, et alors, contre toute attente, c'est une scène de séduction que vous nous racontez.
C'est une scène de séduction qui repose quand même sur des faits historiques relativement précis. J'espère que mon maître bien-aimé Jean Tullard continuera à me parler quand il aura lu le livre.
Puisque vous êtes ici, il vous parlera et nous le saluons très chaleureusement.
Absolument. En fait, les rapports que Bonaparte entretient avec l'homosexualité sont connus, il ne l'est évidemment pas. Mais au moment où cet homme fou d'ambition va partir en Égypte, on raconte que finalement Bonaparte est ce passionné absolu des grands personnages comme Hannibal, comme le Grand Condé, comme tous ces personnages finalement.
Comme César, comme Alexandre.
César, comme Alexandre, qui tous sont des conquérants exceptionnels. Et quelqu'un qui a de l'humour lui fait remarquer, mes citoyens généraux, tous ces hommes-là étaient résolument gays. Ils étaient tous homosexuels. À que cela ne tienne, répond Bonaparte, qu'on m'amène un très joli éphèbe égyptien, et il paraîtrait que dans son campement, dans les nuits du Caire, sous la voûte étoilée, le cher Bonaparte aurait goûté à ce genre d'amour grec, si vous me passez la formule.
Quand je pense que nous avions réussi à faire presque toute cette émission sans faire sauter le standard, et voilà que vous allez nous créer des ennuis, Philippe Séguy.
Je les assume.
Joséphine va continuer de hanter vos rêves, d'après ce
toujours.
Que
j'ai compris. Toujours. Moi, je suis amoureux de Joséphine depuis l'âge de 15 ans.
C'est comme quand Flaubert disait « Madame Bovary, c'est moi ». Vous venez de nous dire « Je suis Joséphine ».
Exactement, je suis Joséphine.
C'est donc Flammarion qui nous offre ce roman de Philippe Séguy, « Stanislas, un caprice de Joséphine ». Merci beaucoup de nous avoir servi de guide dans les rues malfamées du directoire.
Merci à vous.